Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle. Christelle, c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent, alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée, mais surtout, surtout, le partager à vos amis. Allez, c'est parti pour notre épisode. Hola hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine depuis le dernier épisode. Nous, c'était un super week-end en famille. On était sur un tournage dont Saul était l'acteur principal, un tournage pour un court-métrage. C'était vraiment une belle aventure, une belle journée. On était en bord de rivière, on a nourri les chevaux avec Milo. Milo, il adore les animaux, donc c'était aussi un très bon moment pour lui. Et voilà, c'était un week-end ressourçant, d'aventure en famille, et j'espère que il en a été de même pour vous. Et aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement revenu directement sur Instagram, parce que vous savez que tous les mardis, je vous mets une petite boîte à questions sur mon compte Instagram, Christelle Carder, mon compte destiné à la maternité, enfin dédié à la maternité, à la parentalité. Et je vous propose de me poser toutes vos questions. Et ce qui est beaucoup revenu, c'était des questions encore autour de la colère. D'ailleurs, vous avez été plus de 200 à télécharger les 5 phrases pour apaiser la colère de votre enfant, pour connecter avec votre enfant quand votre enfant est en colère. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre confiance. C'est très réjouissant pour moi de savoir que vous avez ce petit outil à portée de main maintenant. Vous pouvez les télécharger sur mon site si vous les avez pas encore. Donc il y a beaucoup de questions qui sont revenues encore autour de ça, beaucoup de questions aussi sur l'endormissement. Donc je pense que les questions autour de l'endormissement, l'apaisement le soir, ce sera le prochain épisode de podcast du coup. Mais j'avais envie de vous parler cette semaine d'un sujet un peu plus large et qui finalement impacte beaucoup nos actions et positionnements auprès de nos enfants au quotidien. Et c'est pas, ça ressort pas en fait dans vos questions sur Instagram, tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui est un sujet un peu plus large et un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus souterrain, j'ai envie de dire, mais qui ressort beaucoup quand on creuse un petit peu dans les accompagnements famille. Et une maman me disait récemment que c'était difficile pour elle d'avoir le même positionnement bienveillant avec ses enfants quand elle est seule avec ses enfants versus quand elle est en public, et notamment, enfin en public, ça peut être en public, en extérieur, mais là notamment quand elle est avec sa belle famille. Et ça m'a donné vraiment envie de vous en parler ici, parce qu'au fil de notre rendez-vous, ce qu'on a pu mettre à jour, c'est que derrière cette difficulté, il se cachait le besoin d'apparaître et de se sentir comme une bonne mère, d'apparaître comme une bonne mère. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est très présent en fait en nous, de manière parfois inconsciente. Parfois on sent cette espèce de dissociation là entre ce qu'on aimerait faire à l'intérieur de nous pour se sentir être une bonne mère et comment ça apparaît dans le regard de l'autre et comment ça vient conditionner en fait nos réactions et nos façons de nous positionner. Je vais faire un tout petit, une toute petite parenthèse ici pour dire que on pourrait également se parler, et ce serait super intéressant de se parler de la paternité et de comment le regard que la société, le regard que l'entourage porte sur qu'est-ce que c'est être un bon père impacte les actions des pères. Ça mériterait un épisode à part entière, parce que je pense que c'est des injonctions qui sont différentes, mais là on va se concentrer sur la maternité. Je fais cette petite parenthèse parce que j'ai eu des échos de papas qui avaient téléchargé les phrases autour de la colère, donc je sais qu'il y a aussi des papas qui sont dans notre petite bulle là, parentalité, ce qui me réjouit beaucoup beaucoup. Et je sais aussi que parfois vous écoutez les épisodes de podcast en couple, donc voilà, j'ai conscience que ça peut être des injonctions différentes pour les pères, et je trouve ça super intéressant aussi de voir justement comment ça s'articule en fait, et comment ça impacte aussi notre dynamique de couple parental en fait. Donc peut-être que cet épisode, il peut quand même être intéressant de l'écouter à deux, si vous êtes dans une situation de couple parental homme-femme, parce que ça peut aussi apporter un éclairage à nos partenaires masculins sur pourquoi on se positionne comme ça. Qu'est-ce qui fait que, en tant que femme, en tant que mère, on a certains positionnements qui peut-être peuvent paraître parfois difficilement compréhensibles, ou en tout cas voilà, sont parfois sujets à discussion, matière à discussion. Donc pourquoi je trouve hyper intéressant ce sujet et pourquoi j'ai envie de vous en parler spécifiquement et de vraiment venir creuser avec vous dans cet épisode de podcast sur ce sujet, c'est parce que il y a vraiment une double injonction en fait dans cette image de bonne mère et je trouve intéressant en fait de venir se questionner sur qu'est-ce que moi j'ai intégré de cette double injonction et comment je me positionne toujours par rapport à cette double injonction dont on va se parler du coup tout au long de cet épisode parce que c'est quelque chose qui finalement nous agit, qui agit en nous, parfois malgré nous. Aussi bien dans un sens que dans l'autre en fait je trouve et pour moi ce qui m'importe, ce qui m'a toujours importé dans mon travail c'est ce côté empowerment des mamans, c'était le titre au départ de cet épisode quand j'étais vraiment sur les tout premiers épisodes quand le podcast c'est un bébé podcast, dans mon activité aujourd'hui c'est vraiment cet empowerment des parents qui m'importe beaucoup de pouvoir en fait se questionner sur vraiment quelle parentalité j'ai envie d'avoir finalement à la fois globalement et à la fois dans le détail du jour le jour. Et je trouve que plus on met de conscience sur qu'est-ce qui me construit dans ma parentalité, plus finalement on va pouvoir être intentionnel et du coup être au plus juste de ce qu'on a envie de vivre avec nos enfants. Donc on va aller un petit peu déblayer la double injonction qu'il y a dans ce regard d'être une bonne mère et pourquoi ça nous met souvent en difficulté et pourquoi ça vient nous agir et nous faire nous positionner parfois d'une manière un peu décalée à ce qu'on voudrait vraiment incarner, à ce qu'on voudrait vraiment être. Donc ce que je peux vous partager dans un tout premier temps et sur quoi on va pouvoir venir se questionner, c'est sur la première injonction qui est celle d'être une mère avec ce qu'on relève des compétences maternelles qui ont été encouragées en nous dès notre petite enfance finalement et ce que la société nourrit beaucoup en fait comme image de la bonne mère où on va venir encourager le développement de compétences comme l'écoute, l'empathie, toutes les compétences qui sont liées au care d'un côté et c'est pas forcément les mêmes en réalité, mais elles vont souvent dans un packaging de l'image de la bonne maman. Également des compétences liées au travail domestique. Et tout ça, on va les retrouver notamment dans les jeux qu'on va pouvoir proposer aux petites filles généralement, qui sont, même si nous, c'est pas forcément ce dans quoi on a été particulièrement encouragé ou ce qu'on va encourager particulièrement individuellement, ce qui sont les jeux qui, à l'échelle de la société, sont ceux identifiés comme les jeux de petites filles. Donc les jeux de poupées, les jeux de maîtresses, les jeux même de vétérinaires parfois, qui on pourrait dire c'est, ça va pas être des jeux genrés, ben en réalité, si on regarde en fait comment on jouait au vétérinaire en tant que petite fille, on peut venir essayer d'observer, est-ce que c'était l'aspect plus scientifique, plus diagnostique, plus médical qui était au cœur du jeu, ou est-ce que c'était l'aspect plus care des animaux, de on va dorloter les animaux, on va en prendre soin, on va être dans un rapport de prendre soin encore finalement. Ce qui en soi est pas mauvais, je pense que ce sont des très belles compétences qu'on devrait tous avoir indépendamment de notre genre, en tout cas qu'on devrait tous encourager, qui devrait être encouragé chez chaque individu indépendamment de son genre, mais qu'on va retrouver vraiment dans ces jeux qui vont en fait être connectés à notre image de la maternité, à l'image qu'on se fait dans la société de la maternité. Et on voit que si on fait un petit regard en arrière, vous pouvez vous demander, est-ce qu'en fait quand j'étais enfant, je jouais à être une mauvaise mère? Et qu'est-ce que c'était cette représentation d'une mauvaise mère? Ou est-ce que je jouais à être une bonne mère? Et on peut observer que quand on pouvait avoir des attitudes, des comportements, en tout cas moi c'est quelque chose que j'observe, puis quand j'en parle avec les mamans, que je peux accompagner ou des amis, ça va souvent être quelque chose que les gens vont valider, en tout cas comme hypothèse, que si on avait des attitudes dans nos jeux de, entre guillemets, mauvaise mère, donc qui ne collent pas à des compétences de travail domestique, ou en tout cas des compétences de prendre soin de la maison, de prendre soin de l'enfant, on va par exemple être, on va, dans le jeu, on va par exemple prendre la poupée, un petit peu mal l'habiller ou la mettre rapidement dans son couffin sans couverture, on va compenser en fait derrière en grossissant les compétences de care comme pour compenser le fait qu'on a joué la mauvaise maman. Et tout ça, c'est pas sans, quand c'est répété, et quand c'est à une échelle sociétale que ça se produit, bah c'est pas sans impact derrière, en fait. Ça crée quelque chose, ça détermine quelque chose dans ce qu'on se représente de ce que c'est qu'une bonne mère. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on va voir, bien sûr, comme distinction entre la bonne et la mauvaise mère dans les films, la littérature, et qui va induire aussi des choses dans ce que je vais appeler la psychologie de comptoir. Donc on va très souvent finalement expliquer une difficulté de la vie par l'attitude des parents, et en particulier l'attitude de la mère, évidemment. Et tout ça, en fait, existe dans le regard que la société porte sur les mères de s'il arrive quelque chose de négatif à l'enfant ou si un enfant se comporte de manière négative, ça va probablement être de la faute des parents et au sein des parents probablement la faute de la mère finalement. Un exemple très récent dont on pourrait se parler, que moi j'ai beaucoup relevé et puis que je vois, enfin je suis pas la seule à remettre cette parole en cause, mais c'est quand on regarde, si vous avez un peu suivi les événements là autour de la libération de la parole de Judith Godrich, si vous avez un peu suivi ça sur les réseaux sociaux, ce qui va revenir à chaque fois dans les commentaires des publications ou dans les commentaires de soit directement de Judith Godrich, soit des médias qui relayent sa parole, ce qui va tout le temps revenir dans les 5 premiers commentaires, si vous lisez un petit peu, c'est « oui, mais ses parents ». Donc, pour ceux ou celles qui n'auraient pas suivi, Judith Godrich, c'est du coup une actrice française qui a libéré sa parole, si je peux dire. Enfin, je sais même pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, qui a pris la parole, qui a dénoncé une relation abusive dans laquelle elle a été plongée dès l'adolescence, l'enfance en fait, à peine sortie de l'enfance, avec un réalisateur qui a à la fois lancé sa carrière, mais à la fois du coup, elle a été victime en fait de ce réalisateur-là, pendant des années dans une relation d'emprise, et enfin bon, vous irez voir. Et en fait, c'est juste voilà, pour vous donner cet élément de contexte pour que vous puissiez comprendre, ce qui revient hyper souvent dans les commentaires, dans les 5 premiers commentaires que les gens vont poster, c'est pas de remettre en, enfin voilà, c'est pas d'essayer de la soutenir ou de l'encourager ou de dire que ce réalisateur-là et que ce système-là, parce qu'au fond, le réalisateur, ok, mais c'est tout le système, en fait, dans lequel, que dénonce, en fait, cette actrice et tant d'autres. Ce qui revient hyper souvent, c'est, oui, mais que faisaient ses parents? Pour que une enfant de 14 ans se retrouve dans une situation pareille, que faisaient ses parents? Et d'un côté, c'est vrai, que faisaient ses parents, mais de l'autre, en fait, c'est justement remettre sur les parents le projecteur, remettre la lumière sur les parents qui seraient dysfonctionnels. Et peut-être c'était le cas, mais c'est ne pas voir en fait tout ce qu'il y a de systémique derrière. Bon, bref, je vais pas me lancer dans cette digression-là parce que c'est pas mon sujet du jour, mais c'est pour montrer en fait que même quand le sujet n'est pas du tout sur la parentalité, quand quelque chose arrive à un enfant, et ça peut être à juste titre, mais on peut quand même venir se questionner sur pourquoi on va toujours en fait remettre l'accent sur la faute des parents en réalité, même quand le sujet est complètement autre. En tout cas, ça vient dire quelque chose aussi de finalement notre le regard qu'on porte sur les parents et sur qu'est-ce que ce serait être une bonne ou une mauvaise mère. Et tout ça, en fait, ça fait qu'on grandit d'une certaine manière en intégrant l'idée qu'une partie de notre bonheur, si ce n'est tout notre bonheur, et le bonheur de nos enfants dépend de notre capacité à être une bonne mère. Et ça, c'est quelque chose qui vient mettre énormément de pression, en fait, sur nos parentalités et en particulier sur nos maternités. Que en gros, pour être une bonne mère, il faut qu'on soit douce, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on sache pratiquer le care, il faut qu'on sache avoir, il faut qu'on sache créer pour nos enfants un environnement qui va être hyper lisse d'une certaine manière, qui va présenter peu d'aspérité, aussi dans l'environnement matériel de la maison, avec tout ce travail domestique, et en même temps qu'on soit voilà toujours dans cette qu'on vienne lisser en fait tous les contours et toutes les arêtes de la vie pour nos enfants d'une certaine manière. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de venir observer quels sont les archétypes de la maternité dans notre société, dans notre culture judéo-chrétienne. L'archétype central, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, c'est celui de Marie, la Vierge Marie, alors que dans les époques pré-chrétiennes ou dans d'autres cultures, il y a d'autres archétypes. Si on regarde par exemple à l'époque pré-chrétienne, il pouvait y avoir Déméter, il pouvait y avoir Héra, il pouvait y avoir Artémis. Donc on voit qu'il y avait une pluralité d'archétypes qui venaient apporter autre chose que cette image presque sacrificielle de la mère qui doit juste toujours être dans la douceur, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance et lisser les arêtes de la vie, les contours de la vie pour ses enfants. Sinon, on n'est pas une bonne mère en fait. Et c'est quelque chose que je trouve on va retrouver également finalement dans tout ce qui va toucher à l'éducation positive et tout ce qu'on va pouvoir voir dans à travers le filtre des réseaux sociaux avec des conseils qui vont toujours être sortis du contexte de la vie réelle, en tout cas souvent, qui vont pas être très... en tout cas qui mis bout à bout et sans aucune contextualisation peuvent paraître finalement très abstraits et hors contexte de la vie réelle où il y a des choses en fait qui viennent interférer avec notre capacité à être toujours dans cette écoute, dans cette empathie, dans une réalité très lissée de nos parentalités. Il y a des représentations de familles parfaites avec des maisons parfaites où on ferait toujours des activités hyper ludiques et en même temps éducatives et des maisons qui, on dirait des maisons témoins, là vous savez, pour faire les ventes de maisons témoins. Je vais fermer mon rideau parce que j'ai la lumière dans les yeux, ça me gêne un peu, voilà. Et tout ça, en fait, ça vient jouer, ça vient créer un contraste énorme, en fait, avec la réalité de la parentalité, la réalité de la maternité, qui est bien souvent beaucoup plus chaotique. on va pas se mentir, on va pas se le cacher, beaucoup plus chaotique que cette image déformée finalement de la réalité. Et ça peut nous placer en sentiment d'échec ou en sentiment de pourquoi les autres y arrivent et pas moi. En fait, les autres n'y arrivent pas mieux que nous. Les autres ont soit des contextes différents, des situations différentes, peut-être plus de soutien humain, familial, d'entourage, peut-être plus de moyens financiers. C'est quelque chose qui est très 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 rarement mis dans la balance, mis dans le contexte, enfin dans ces éléments de contexte dont je parlais juste avant. Justement, c'est quelque chose qui est très peu parlé de quelle est notre situation matérielle, en fait. On parle de parentalité bienveillante toujours comme s'il n'y avait pas de contexte financier ou matériel autour. Mais bien sûr qu'on peut pas avoir les mêmes environnements de maison, d'activité, etc. selon qu'on gagne un SMIC ou selon qu'on est cadre supérieur et qu'on a une famille qui nous a légué un héritage, par exemple. Je dis un peu n'importe quoi, mais voilà. Donc toutes ces réalités-là existent. Et en fait, c'est intéressant d'observer que aujourd'hui, quelque part, il faudrait pouvoir offrir le niveau de présence qui est attendu des mères, en fait, plus de travail domestique, plus d'avoir notre travail à côté, une vie professionnelle à côté, c'est mission impossible, en fait. Et c'est, à l'échelle de l'humanité, quelque chose qui est assez nouveau, en fait, qu'on attende ça des parents avec si peu de soutien autour. En fait, c'est ça aussi, j'en parle largement dans mes différents épisodes de podcast, mais surtout dans la petite enfance, on n'est pas fait pour être parents juste dans notre petite cellule familiale mononucléaire, en fait. Donc tout ça nous crée forcément des espèces de contrastes très prononcés entre ce qui serait attendu de nous dans notre image de bonne mère et ce qu'on a peut-être intégré nous-mêmes, versus ce qu'on est capable de vivre en fait et de créer et d'offrir dans notre réalité en fait. Et puis c'est normal du coup qu'il y ait des jours où on va réussir à coller à cette image-là, puis d'autres jours où ça va pas être possible en fait. Et en plus de ça, et là on va arriver dans la double injonction, donc ça c'est la première injonction, on va arriver dans la deuxième injonction qui vient nous compliquer encore un petit peu plus la tâche, qui est que en réalité quand on va arriver avec du coup tout ce background, j'ai envie de dire, autour de la parentalité et de notre image de la maternité, ben on va s'apercevoir qu'en fait, la société attend aussi de nous que nous soyons une mère qui ne va pas se laisser envahir par ses enfants, qui va pas se laisser bouffer, pour le dire en langage de tous les jours, qui va pas se laisser, qui va pas laisser les enfants prendre toute la place dans sa vie. Et ici, c'est intéressant d'observer qu'il n'y a pas vraiment de règles définies, on va dire. C'est vraiment mouvant, le curseur va bouger en fonction de chaque personne qui va poser un regard sur notre maternité, potentiellement. Et qui va penser que bah là on se laisse envahir, là c'est ok, etc. Donc il faut qu'on ait aussi de la place pour notre travail, pour notre vie de couple, pour faire du sport, pour voir nos amis, avoir une vie sociale. Il y a cette notion très très forte de couper le cordon, de mettre son enfant suffisamment à distance finalement pour pouvoir vivre tout le reste. Et ça, ça va venir, bah, selon les familles, selon les personnes qu'on a en face de nous, selon notre interlocuteur ou notre interlocutrice, ça va venir à différents âges. Donc, pour certaines personnes, ça va être très tôt, à un mois ou à 6 mois, il faudrait déjà que notre enfant dorme dans une autre pièce. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus éloigné, donc à 2 ans, il faudrait que notre enfant soit déjà beaucoup plus mis à distance que ce qu'on va pouvoir proposer dans notre parentalité, dans notre parentalité. Et tout ça va en fait être vraiment dans cette double injonction où on a grandi avec cette injonction au cœur, avec cette image de la bonne mère qui va toujours prendre soin, qui va toujours être omniprésente finalement dans la vie de son enfant parce qu'elle lisse l'environnement de son enfant et elle accueille en permanence les émotions de son enfant, elle répond à tous ses besoins, c'est la mère nourricière. Et en plus, c'est d'une certaine manière, dans un premier temps, notre norme biologique hein, de répondre aux besoins de nos enfants. Et qu'on sait que nos enfants ont des besoins aussi auxquels il est important que des adultes, pas forcément la mère, mais des adultes répondent. Donc, et notre bonheur dépend de ça, et le bonheur de nos enfants dépend de ça. Mais aussi, il faut savoir mettre notre enfant à distance, le discipliner et assurer dans toutes les autres sphères de notre vie. Et c'est ça en fait qui est si difficile, c'est que d'une part la première injonction elle est intenable avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, et d'autre part, ben en plus il faudrait pas non plus tomber trop là-dedans, puisqu'il faut qu'on soit aussi cette mère un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus, qui met un petit peu plus de distance avec sa maternité. Parce que sinon on se laisse envahir, sinon on se laisse bouffer, sinon on est dans le trop en fait. Et on devient même, et il y a cette image-là hein, dans notre société, on devient même dangereuse quelque part pour notre enfant, parce qu'on va être cette mère hélicoptère, on va être cette mère castratrice qui va venir vouloir contrôler et gérer toute la vie de son enfant, et on bascule en fait dans cette autre case de la mauvaise mère finalement, qui est la mère qui ne laisse pas d'espace à son enfant en fait. Sauf que bien sûr, il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Donc chaque personne va pouvoir déterminer où est-ce qu'elle place le curseur pour elle, mais souvent en réalité pour les autres. Parce que du coup, on a souvent moins de recul sur ce que nous, comment on interagit avec nos enfants dans cet équilibre. Mais il va souvent y avoir des jugements sur comment en fait des jugements extérieurs sur la parentalité des gens autour de nous, tout simplement. Donc, quelles règles suivre pour être une bonne mère, finalement? Puisque, comme il n'y a pas ce mode d'emploi, cet équilibre, il va dépendre de chaque personne. Chaque personne va s'autoriser un droit de regard sur l'endroit où on place le curseur, et les règles vont se contredire en fonction de, bah, justement, où est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on regarde, en fait, finalement. Donc, si on regarde dans la toute petite enfance, quand nos enfants sont encore bébés, mais c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver plus tard également, bah, pour certains, on ne laisse pas pleurer un bébé, pour d'autres, on laisse pleurer 5, 10, 15 minutes, ou pour d'autres, on peut laisser pleurer encore une demi-heure, c'est ok, parce que ça fait les poumons. Donc, quelles règles suivre? Et finalement, on peut voir que si on reprend cet exemple du « je ne laisse pas pleurer » versus « on laisse pleurer parce que ça fait les poumons », ben, ça peut déjà être un point, voilà, un petit point concret, enfin un gros point en réalité, un gros point concret sur lequel ben, on va pouvoir recevoir des jugements de « je suis une bonne mère » ou « je ne suis pas une bonne mère », « c'est une bonne mère » ou « c'est pas une bonne mère », ben, c'est pas une bonne mère parce qu'elle va répondre tout de suite aux pleurs de son bébé, elle se laisse envahir, elle se laisse bouffer par son bébé, ou au contraire, c'est une bonne mère parce qu'elle va répondre aux pleurs de son bébé, ou c'est pas une bonne mère parce qu'elle répond pas instantanément aux pleurs de son bébé, elle le laisse 5 minutes pleurer, ou voilà, elle répond pas immédiatement. Donc c'est compliqué, tout ça, c'est compliqué, et on pourrait se baser sur ce qui est scientifiquement admis, et moi je trouve que c'est déjà un bon point de départ, ce qui est scientifiquement admis, mais c'est important aussi d'observer que ce qui est scientifiquement admis, donc en fait c'est ce qui va être relayé par la parole des experts en éducation, puériculture, parentalité, médecins, etc. On peut se baser là-dessus, mais déjà, les spécialistes sont pas tous d'accord entre eux. Il y a des spécialistes qui vont dire bah c'est important d'allaiter jusqu'à 6 mois révolus. Il y en a d'autres, moi j'ai eu un pédiatre hein, qui m'a dit mais là madame à partir de 4 mois ça sert plus à rien d'allaiter votre bébé. Donc évidemment quand on a des informations, on va se reparler de ça, on va pouvoir se positionner en fonction des informations qu'on a, mais il faut des... ça nous demande en fait de choisir l'information qu'on va croire en réalité. Et c'est important aussi d'observer que les connaissances qu'on a sur le développement de l'enfant et sur les besoins de l'enfant évoluent au fil du temps. Nos mères, nos grands-mères pensaient bien faire avec les informations qui étaient entre leurs mains à cette époque en fait. Et on sait aujourd'hui que bah en fait non, laisser pleurer un bébé ça fait pas les poumons et qu'au contraire ça peut être néfaste pour le développement de nos enfants. Donc si on se base sur les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, c'est pas dit que demain ce soit pas remis en question en fait d'une certaine manière. Donc ça aussi ça peut venir poser question sur quoi on se base, quelles sont les règles en fait. Et finalement moi ce que j'encourage beaucoup à travers tout ça, bien sûr en prenant en compte ben les connaissances qu'on a aujourd'hui et ce qu'on sait aujourd'hui du développement du bébé et de l'enfant. Mais moi, ce que j'encourage vraiment, parce que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment cet empowerment des parents, c'est vraiment de se remettre en fait au centre de notre parentalité, c'est qu'est-ce qu'on trouve juste pour nous, pour notre famille, et même pour cet enfant au sein de notre famille. Parce que les conseils ou les... tout ce qui va être théorique en fait sur nos parentalités, c'est précieux pour se donner des idées, pour réfléchir, pour prendre du recul sur notre parentalité, mais on voit bien déjà que d'un enfant à l'autre, ça va pas fonctionner de la même manière, et d'une situation à l'autre, ça va pas fonctionner de la même manière. Donc moi je trouve hyper important de, surtout quand on ressent de la pression vis-à-vis de ces règles-là qui se contredisent, du regard des autres, etc., de venir se remettre au centre vraiment et de se questionner qu'est-ce que moi je veux en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre avec ma famille, d'autant plus que quand on cherche cette validation extérieure, on va s'en reparler parce que ça fait aussi partie de notre processus, en tout cas de nos besoins d'être humain, comme on est un animal tribal, social, ça fait aussi partie de nos besoins de se reconnaître dans le regard des autres. Moi j'ai pas trop cette approche de dire que il faudrait absolument s'affranchir complètement du regard des autres. Je pense pas que ce soit humainement possible en réalité, et je pense même pas que ça nous rende vraiment heureux en réalité. Donc c'est plutôt l'idée pour moi de venir choisir quel regard on va dans quel regard on va se vivre en fait. Bon, c'est pas très clair, je vais y revenir après. J'ai conscience que je suis pas très claire là, je vais y revenir après. Donc, je vais reprendre le fil de là où j'en étais. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous questionner, En tout cas, ce que je vous invite à vous poser comme question, c'est donc qu'est-ce qui est juste pour moi? Et qui décide au final si on est une bonne mère, si on est un bon parent? Est-ce que c'est les experts en parentalité? Est-ce que c'est notre belle-mère? Est-ce que c'est les autres mamans sur les réseaux sociaux? Est-ce que on se base même sur notre enfant, sur les comportements de notre enfant à l'instant T? Et ici, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé en début d'épisode, mais sur lequel je vais revenir. On entend souvent des jugements sur les parents d'enfants qui vont par exemple beaucoup se mettre en colère et que ça peut être lié au fait que les parents vont être trop stricts ou trop laxistes ou trop ceci cela. Alors que peut-être que la colère des enfants n'a aucun rapport avec les parents. Peut-être que c'est une période difficile à l'école parce qu'il y a une transition importante, l'enfant passe de la maternelle au CP ou l'enfant a des enjeux affectifs avec ses amis ou ça se passe pas très bien avec l'équipe pédagogique, la maîtresse ou le maître, etc. Il peut y avoir plein de choses qui sont pas dépendantes du parent, mais qu'on va mettre sur les épaules du parent avec un regard extérieur, en disant que bah, c'est probablement parce que les parents sont trop ceci, trop cela, alors que les parents font ce qu'ils peuvent pour accompagner leur enfant, sans chercher à mettre un couvercle sur la colère de l'enfant, pour lui permettre de s'exprimer, et que chacun au sein de la famille fait de son mieux dans la période challengeante, mais l'entourage, n'a pas conscience de ça, et va juste juger le parent en fonction de l'attitude de l'enfant, et en sautant sur la conclusion que les parents font mal leur job, parce que si les parents faisaient bien leur job, leur enfant serait plus épanoui, se mettrait moins en colère, ou gérerait mieux sa colère, etc., etc. Et on revient finalement dans cette image dont je parlais par rapport à Judith Godrich et tant d'autres, de si l'enfant va mal, c'est à cause des parents, forcément. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est parfois le cas, ce qui est fréquemment le cas, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est important pour nous aussi de ne pas faire, on va s'en reparler après, mais de pas conditionner l'un à l'autre, de pas conditionner le fait qu'on soit un bon parent à l'attitude de notre enfant et de pas en faire un critère de lecture de notre parentalité. Donc la première question, ou plutôt la deuxième, puisque on s'en est déjà posé une importante, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux être une bonne mère? Est-ce que c'est pour correspondre à une image intérieure que je me suis construite depuis ma plus tendre enfance? Est-ce que c'est pour répondre aux injonctions de la société? Est-ce que c'est pour que mon enfant ait les bons comportements, soit heureux maintenant et plus tard? Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a le regard extérieur, mais il y a aussi nous, notre positionnement intérieur. C'est une question qu'on doit vraiment se poser en conscience, parce que si on cherche à cocher la case de la bonne mère pour notre enfant, il peut vraiment y avoir ce glissement sacrificiel, et du coup une forme de pression inconsciente ou indirecte qu'on va faire peser sur notre enfant. Parce que je suis une bonne mère, ou parce que j'ai été une bonne mère, tu devrais être heureux, épanoui, et si tu ne l'es pas, ça va me remettre en question. Et du coup on va pas forcément autoriser l'enfant à être, même indirectement, même inconsciemment, on va pas l'autoriser à être pleinement dans d'autres émotions que le bonheur, la joie, etc. Alors que ces autres émotions, la colère, la tristesse, ben elles font partie de la palette de sentiments humains, en fait. Et c'est normal de les ressentir. Mais si ça vient nous remettre en question, ben ça devient problématique parce que notre enfant n'aura pas l'espace de s'exprimer dans ces émotions-là. Et quelque part, quand on le garde dans un contexte d'enfance, souvent quand on a des notions de parentalité bienveillante, ça nous paraît l'évidence, mais je vous invite à faire le pas de côté et à observer comment ça s'est passé pour vous et dans votre entourage, vos amis, les personnes avec qui vous avez pu échanger sur ce genre de sujet. Je trouve que quand on bascule à l'arrivée à l'âge adulte, ça prend tout un autre sens. Je pense qu'on a, soit personnellement, soit dans notre entourage, tous connu ces situations où quand les enfants grandissent et portent un regard du coup un petit peu plus, avec un peu de recul en fait sur l'éducation qu'on a reçue, sur l'éducation qu'on a reçue enfant quand on devient adulte, on peut voir qu'il y a eu peut-être des traumas légers ou des traumas plus importants, ou même juste, sans forcément parler de traumas, des choses qui peut-être bah voilà, on se dit j'aurais préféré que mes parents fassent autrement, ou moi je voudrais faire autrement avec mes enfants. Et quand on essaye d'en parler avec nos parents ou avec les parents d'enfants qui sont devenus adultes, bah ça se passe pas très bien, parce que les parents d'enfants adultes ont tellement le sentiment d'avoir tout bien fait qu'ils ne peuvent pas supporter la remise en question de leurs actions, de leurs attitudes. Et souvent, c'est parce que derrière, il y a eu ce sentiment un peu de sacrifice, de « mais j'ai tellement fait pour toi, j'ai tellement été présente, ou j'ai tellement tout fait pour que tu aies le bon environnement, que tu puisses faire les bonnes études. » Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein, de « j'ai été cette mère, justement cette bonne mère, hyper présente, hyper empathique, hyper à l'écoute, ou j'ai été cette mère qui a mis tout en œuvre pour que tu aies les bonnes conditions pour t'épanouir, plus sur un plan d'environnement, de matériel, de chance, d'accès à des opportunités, etc. » Et en fait, le fait que les enfants devenus adultes puissent porter un regard plus nuancé sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qui s'est produit dans leur enfance, ben en fait, c'est pas acceptable pour les parents, parce que ça les remet trop en cause, en fait, dans ce « j'ai tout fait pour toi ». Et du coup, ça peut venir nous interroger sur « ok, comment je me positionne aujourd'hui tandis que mes enfants sont petits ?» pour que je ne me retrouve pas dans cette situation plus tard de ne pas être en mesure d'entendre qu'il y a peut-être des endroits où j'ai pas fait parfaitement et où j'ai pas il y a un espace de remise en question, en fait. Parce que c'est normal, parce qu'on fera jamais tout bien 100% parfaitement, et c'est ok. Donc c'est vraiment important, je pense, qu'on puisse se questionner sur est-ce qu'on fait les choix pour nos enfants, et est-ce que c'est une bonne chose, que ce soit vraiment tout le temps le bien-être quelque part de nos enfants qui soit au cœur de nos décisions. Ou est-ce que je fais les choix pour moi en tant que maman? Et ici, je vais vous donner un exemple, parce que j'ai conscience que c'est pas forcément toujours hyper politiquement correct ce que je suis en train de dire. Donc je vais vous donner un exemple pour venir illustrer ça et qu'est-ce que ça signifie pour moi. Et l'exemple que je vais donner, c'est un exemple qui est à la fois hyper commun et à la fois un peu touchy, donc je le trouve intéressant. C'est celui dont j'ai déjà parlé, de laisser pleurer son bébé. Est-ce que je réponds aux pleurs de mon bébé parce que je sais que ça va, si je n'y réponds pas, que ça va potentiellement lui créer du stress et du coup, si ça se répète trop longtemps, trop souvent, nuire à son développement? Ou est-ce que je réponds aux pleurs de mon bébé avant tout parce que c'est insupportable pour moi de laisser pleurer mon bébé? Parce que, en fait, ça vient me créer une sécrétion de cortisol qui déclenche un stress dans mon organisme, ce qui est physiologiquement fait pour que, en tant que parent, je réponde aux pleurs de mon bébé. Ici, c'est hyper intéressant parce que, justement, si on écoute les récits des mères, en particulier, bon, des pères aussi, mais c'est quand même souvent les mères qui témoignent de ça, de la génération avant nous, beaucoup d'entre elles disent « on m'a dit qu'il fallait laisser pleurer mon bébé, du coup c'est ce que j'ai fait, mais ça m'a coûté un véritable effort ». Moi, on m'a raconté des mères qui ont aujourd'hui vraiment de la génération au-dessus de nous, m'ont raconté « oui, mais moi en fait on m'a dit qu'il fallait que je laisse pleurer mon bébé, et du coup je mettais la musique hyper fort, je me mettais dans une autre pièce parce que c'était difficile de le laisser pleurer ». Mais comme on m'avait dit que c'était ça qui était bon pour mon bébé, ben en fait, même si c'était hyper douloureux pour moi, je l'ai fait. Parce que je pensais que c'était ça qui était bon pour nos bébés, pour mon bébé. Et vous voyez, en fait, ce que je veux vous partager avec cet exemple-là, c'est comment, en fait, parfois, en mettant au centre ce qu'on nous dit qui est bon pour notre bébé, en dépit de ce que nous, on ressent qui est bon pour nous au sein de notre famille et dans notre parentalité, bah finalement, ça nous pousse à faire des choix qui sont pas forcément ceux qui sont les meilleurs une génération après, finalement. Et je trouve ça hyper intéressant dans cet exemple-là, parce que si je m'écoute, en fait, je ne peux pas laisser pleurer mon bébé. On va voir qu'il y a d'autres situations où peut-être, on va pouvoir venir questionner ça à nouveau, et je trouve intéressant de venir questionner. Je prétends pas vous apporter des réponses universelles qui doivent déterminer votre propre parentalité. Justement, c'est comment je réfléchis pour moi-même, comment je ressens pour moi-même ce qui est juste pour moi à l'instant présent avec cet enfant dans la situation qui est la même, qui est la mienne, pardon. Et donc, si je reprends cet exemple-là de « je laisse pleurer mon bébé, ça vient sécréter en moi du cortisol, qui va me déclencher du stress, qui fait que j'ai envie de répondre à mon bébé ?» Dans un second temps, je vais avoir la notion théorique que ça nuirait en plus au développement de mon enfant, qu'un adulte ne réponde pas à ses pleurs. Et ici, c'est important pour moi de spécifier un adulte, parce que c'est pas forcément moi la mère qui doit répondre aux pleurs, ça peut être un autre adulte. Et à partir de ce qui est pour moi juste, je vais pouvoir définir ce qui compte vraiment de manière générale, déjà, de manière globale, et au jour le jour de manière plus précise. Par exemple, je peux prendre conscience que pour moi, c'est important que mes enfants aient une alimentation saine. Et donc pour moi, être une bonne maman, c'est mettre la priorité sur leur préparer des repas équilibrés. Versus, pour moi, c'est secondaire d'avoir une maison bien rangée, et donc je vais pouvoir laisser ça au second plan. Ça veut pas dire que je m'en fiche, juste que c'est pas dans le top 3 ou le top 5 de mes priorités parentales. Et là encore, ça va être important de toujours se remettre dans le contexte immédiat dans lequel je suis. Par exemple, d'habitude, ça fait partie de mes priorités que mes enfants mangent équilibré, mais imaginons en ce moment, je suis seule à la maison parce que mon amoureux ou l'autre parent est en déplacement professionnel. Donc, pour moi, la priorité du moment, ça va être que les soirées soient les plus simplifiées possibles et je vais me tourner un peu plus vers des plats tout préparés parce que peut-être l'alimentation saine, c'est ma priorité, c'est dans mon top 3 de mes priorités. Mais avant l'alimentation saine, j'ai le désir qu'il y ait un climat harmonieux dans la famille au moment des repas et j'ai pas envie d'arriver hyper stressée au moment des repas parce que j'ai tout donné sur la préparation du repas et qu'en fait quand arrive le moment du repas, bah, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de patience pour mes enfants. Donc vous voyez qu'en élaborant cet ordre de priorité, finalement c'est ça qui va nous aider à vraiment être au plus juste de ce qu'on a envie de vivre avec nos enfants et au sein de notre famille. Plus on a conscience de ces priorités-là pour nous sentir être une bonne mère, plus ça va nous aider à prendre des décisions avec intentionnalité, avec rapidité, en ressentant beaucoup moins la pression et les jugements extérieurs en fait. Parce que quand on est vraiment dans ce qui est juste pour nous, ben on va avoir beaucoup plus de facilité à mettre un peu à distance le regard extérieur. Et pour définir ces grandes priorités, quelque chose qui aide beaucoup et que je propose très régulièrement aux familles que je peux accompagner, c'est de faire du journaling autour de ces priorités justement. Et comme je sais que dans l'idée ça paraît sympa et que on se dit pourquoi pas, mais que c'est pas toujours facile de s'y mettre, de savoir comment s'y prendre, j'ai créé un petit workbook qui fait 10 pages où je vous propose le processus que je partage aux familles que j'accompagne. Donc c'est tout simple, on va aller écrire sur nos priorités, on va y associer les émotions qu'on va avoir quand on vit cette priorité, qu'on incarne cette priorité, que c'est quelque chose qui est réel dans notre famille, et on va y associer une action déterminante pour ça. En plus, on va venir associer aussi une affirmation autour de cette priorité. Et en fait, avec ce petit process, ces petites étapes, ça va nous aider à vraiment nous concentrer sur ces priorités, à pas nous éparpiller, à se laisser un petit peu embarquer avec les priorités des autres finalement. Et je trouve que le journaling, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à réfléchir, à un espace de réflexion et d'introspection sur qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre et incarner au sein de nos familles en tant que parents. Et c'est pour ça que j'adore ce petit outil qui, à mes yeux, est hyper accessible à tout le monde. Et du coup, vous pouvez aller tout simplement télécharger ce petit workbook qui est accessible sur mon site ou depuis mon compte Instagram Christelle Carder. Voilà, voilà. Donc je vais faire un petit retour en arrière. Parce que je trouve que c'est... je sais que ça peut être un questionnement de se dire « Oui, mais si je pars toujours de moi, si je pars toujours de ce qui est juste pour moi, il peut y avoir un risque que mes besoins, mes priorités entrent en conflit avec ceux de mon enfant et que du coup, je fasse consciemment ou inconsciemment des mauvais choix pour mon enfant en termes de protection de l'enfance, en termes de qu'est-ce qui est le meilleur pour mon enfant. » ici. Vraiment, moi, ma posture et ce que j'ai envie de nous permettre d'avoir au cœur de nos réflexions, c'est que, à mes yeux, chaque parent va toujours faire le meilleur choix possible pour son enfant, avec deux déterminantes différentes. La première, c'est l'information. Donc à partir du moment où un parent a l'information entre les mains sur ce qui a le plus de ce qui est le plus bénéfique pour son enfant, souvent en fait, l'intérêt de notre enfant nous tient à cœur et du coup, ça va entrer nécessairement en ligne de compte, en fait. Et du coup, voilà, ça c'est la première déterminante d'avoir les informations entre les mains. C'est pour ça que c'est si important, ben justement, d'avoir accès aux informations actuelles, en sachant que ben, parfois elles vont pouvoir être contredites à la prochaine génération, mais en tout cas, déjà au moins on a ces éléments de se dire, ben, j'ai fait de mon mieux avec les éléments que j'avais aujourd'hui entre les mains, et ce qui me paraissait juste à ce moment-là. Et la deuxième déterminante, c'est que, bien sûr qu'il y a des familles dans lesquelles, même avec la connaissance, les parents vont faire des choix qui vont parfois aller en contradiction avec ce qu'on sait qui est le meilleur pour leurs enfants, pour les enfants de manière générale. Et je crois que quand c'est le cas, c'est toujours parce que les parents, en l'état actuel, ne peuvent pas faire autrement. Je pars du principe que les enfants sont bons, empathiques, coopératifs, et je pars aussi du principe que les parents sont bons, empathiques, coopératifs et veulent le meilleur pour leurs enfants. Si on reprend cet exemple fréquent, assez touchy, des pleurs de bébé, si une maman sait que son bébé vit un stress quand il pleure sans que personne ne lui réponde, mais qu'elle ne répond pas pour autant à ses pleurs à l'instant T, je vais partir du principe que c'est parce qu'il y a une bonne raison à ça. Elle peut rencontrer une difficulté qui lui fait faire ce choix-là, ou elle peut avoir un autre prisme de lecture de la situation. D'un point de vue extérieur, c'est peut-être pas le bon choix dans l'absolu, mais ce choix ne l'empêche pas en fait d'être une bonne mère. Par exemple, peut-être qu'elle est épuisée et que se rendre dans la pièce où son bébé pleure, ce serait prendre le risque de mal réagir aux pleurs de son bébé. Et dans les histoires de bébés secoués, par exemple, bah, c'est ça en fait. Hein, on est au bout du rouleau, on ne peut plus répondre aux pleurs de bébé qui déclenchent du stress à l'intérieur de nous avec cette action du cortisol. On est tellement en situation de stress, d'épuisement, de fatigue qu'on va avoir une réaction inadaptée aux besoins de notre bébé. On veut que ça s'arrête, on veut que les pleurs du bébé s'arrêtent, mais on n'est pas en mesure d'accompagner réellement notre bébé. Et donc finalement, ici, être une bonne mère, c'est peut-être faire le choix de, pour l'instant, ne pas répondre aux pleurs. Peut-être aussi que cette maman, elle doit s'occuper de son aîné, son enfant plus grand, qui a des besoins spécifiques et qui lui demande énormément de temps et d'attention, et qu'elle fait de son mieux pour répondre à tout le monde, mais que c'est juste dans la situation actuelle, bah, impossible de satisfaire les besoins de tout le monde, et donc elle gère une priorité après l'autre. On a vu, hein, que c'est quand même un peu mission impossible dans notre culture, dans notre société aujourd'hui, de répondre aux besoins d'être la seule, ou si on prend le couple parental, les deux seules personnes à répondre aux besoins des bébés. Et peut-être aussi, et ça c'est quelque chose qui est encore, on peut formuler plusieurs hypothèses, peut-être que la maman ne se déplace pas à ce moment-là parce qu'elle attend que ce soit le père de son enfant, de son bébé qui se déplace, en pensant qu'il est important que le père prenne sa place et en souhaitant que le père s'investisse auprès de son enfant, qu'il tisse des liens et que le père la décharge davantage. Et dans toutes ces situations, en fait, cette mère qui peut-être, si on se base juste sur les besoins du bébé et la réponse aux pleurs, bah, elle fait pas ce qui est, entre guillemets, admis comme étant un bon choix, mais en fait, elle se positionne quand même en tant que bonne mère parce qu'elle a d'autres éléments, en fait, de réflexion autour de son choix. Dans toutes ces situations, elle fait de son mieux pour être une bonne mère en fonction de sa priorité du moment, et c'est ça qu'on va venir regarder. Dans le coaching ou dans l'accompagnement, ce qu'on va venir regarder, là je prends un exemple vraiment avec les bébés, mais ça va être pareil avec des enfants plus grands. Donc c'est pourquoi la mère elle est épuisée, comment on peut agir pour qu'elle le soit moins, pour pouvoir créer la possibilité de faire le choix de répondre aux pleurs de son bébé. Elle est pas en mesure de faire ce choix-là aujourd'hui parce qu'elle est trop épuisée et que ce serait plus dangereux qu'autre chose d'aller répondre aux pleurs de son bébé, mais comment on va pouvoir transformer la situation pour que ce choix-là devienne à nouveau le meilleur choix possible. Si on prend le deuxième exemple que j'ai donné, est-ce qu'il serait possible d'avoir plus d'aide pour son aîné, de l'aide extérieure, Et troisième hypothèse, comment on pourrait créer un climat familial dans lequel le père s'implique davantage sans que ce soit sur ce moment-là que ça se détermine ou que ça soit que l'équilibre se crée finalement. Et donc ici, je trouve que c'est toujours important de respecter le fait qu'on part de soi. Parce que plaquer des bons choix externes sur notre situation personnelle qui est toujours complexe peut finalement nous amener à être cette mauvaise mère, entre guillemets, répondre aux pleurs de bébé alors qu'on est épuisé et qu'on risque de mal agir. Ou si je reprends l'exemple des repas pour sortir un petit peu de cet exemple qui est un petit peu, qui nous amène vers des hypothèses ou visualiser des choses un peu extrêmes. Préparer un repas maison alors que je manque de temps, que je suis seule à la maison, à tout gérer et finalement en arriver à être tellement stressée que je vais passer le repas à crier sur mes enfants. Ce qui n'est pas ce que j'ai envie de vivre en fait. À la limite que mes enfants ils aient la portion de légumes, la portion de protéines, de glucides, etc. Finalement, si j'ai passé tout mon repas à crier sur mes enfants, à la fin de la journée, je vais sûrement avoir plus l'impression d'avoir été une mauvaise mère que si j'avais fait un plat surgelé et qu'on avait passé un bon moment tous ensemble en fait. Et donc ici c'est vraiment se questionner, encore une fois, sur ce qui nous semble juste pour nous, pour notre situation familiale à l'instant T, et pour chacun de nos enfants. Et j'avais dit que je reviendrais un petit peu là-dessus quand je parlais du regard des autres. Tout ça, en fait, ça existe de manière tissée, ou entrelacée, avec le fait qu'on est des êtres sociaux, on est un être tribal, l'être humain est un être tribal, et donc forcément le regard des autres va quand même avoir de l'impact en fait. Et encore une fois, moi je pense qu'on peut pas s'en défaire totalement, que c'est même pas forcément le but à mon sens, parce qu'on va toujours exister d'une certaine manière à travers le regard des autres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de trouver les personnes qui vont poser un regard positif sur nos choix. C'est-à-dire que peut-être que notre belle-mère, elle trouvera jamais positif que on dise que c'est ok que nos enfants ne finissent pas leur assiette et que ils mangent comme ils ont envie. Ou peut-être qu'elle trouvera toujours que c'est pas ok qu'on réponde aux pleurs de nos bébés, qu'on se laisse envahir, qu'on est trop laxiste dans notre façon de faire, etc. On peut pas changer son regard. On peut changer comment nous on se positionne vis-à-vis de son regard, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de se trouver un entourage qui va poser un regard plus positif sur nos choix et qui va du coup contrebalancer les regards plus jugeants qu'on va pouvoir avoir dans notre entourage. Et ça, à mon sens, c'est hyper précieux, hyper important dans nos parentalités, de se créer cette communauté. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire absolument, c'est que bien sûr on veut être une bonne mère, bien sûr on veut être le meilleur parent possible pour nos enfants, pour nous-mêmes, mais ce qui est important aussi c'est de s'autoriser à montrer toutes les facettes de notre personnalité à nos enfants, s'autoriser à être pleinement nous-mêmes et finalement quand on se replace au centre de nos décisions parentales versus qu'est-ce qui serait le meilleur pour mon enfant, qu'est-ce que disent les experts, qu'est-ce que dit mon entourage sur ce que c'est qu'être un bon parent, ben on va s'autoriser plus pleinement à être nous-mêmes, on va sortir de cette quête inatteignable de la perfection, de être ce parent parfait, ce parent toujours bienveillant, et ça va faire de nous finalement un parent plus relaxé, un parent plus détendu vis-à-vis de sa parentalité, de dire ben c'est ok en fait, il y a des fois je vais faire des repas maison et c'est ok, et il y a des fois où ça va être des repas tout préparés parce que c'est le plus simple et que c'est pas la priorité. La priorité, c'est qu'on passe un bon moment ensemble au moment du repas. C'est, oui, je vais répondre aux pleurs de mon bébé. Bien sûr que c'est, que pour moi c'est important, mais je suis pas non plus dans un surstress de me dire le cerveau de mon enfant va s'autodétruire si je ne réponds pas dans les 2 minutes. Et ça peut être aussi ok que ce soit un autre adulte qui réponde aux pleurs de mon bébé. Et ainsi de suite, en fait. De venir s'enlever cette pression. Deux, il faut absolument que je sois une bonne mère parce que le bonheur de mon enfant dépend de ça et mon propre bonheur dépend de ça. Le bonheur de nos enfants dépend aussi de voir leurs parents s'autoriser à être eux-mêmes, de voir leurs parents s'autoriser à dire parfois, ben non en fait, j'ai pas envie d'être dans l'accueil empathique de toutes les émotions de toute la famille. Je peux aussi juste prendre du temps pour moi, être plus relax, être dans quelque chose de moins, qui colle moins à cette image d'épinal de la bonne mère, en fait. Et je trouve ça important de l'entendre parce que la tendance actuelle est à la base pour des bonnes raisons, hein, parce que c'est vrai que c'est hyper important et que c'est heureusement qu'on a ces connaissances-là aujourd'hui sur le développement de l'enfant, mais la tendance actuelle nous pousse un peu plus dans cet archétype de la bonne mère, et comme on n'a pas autour de nous l'environnement qui puisse nous permettre de répondre 100% aux besoins de nos enfants, eh bien, ça nous met dans des situations compliquées, en fait. Donc, je pense que c'est important de le faire quand c'est possible, le plus souvent possible, et aussi de s'autoriser et de savoir que c'est OK et que ça peut être plus néfaste, même pour nos enfants, de vouloir absolument coller 100% à ces recommandations-là versus s'autoriser à, parfois, choisir la simplicité aussi et que c'est OK, en fait. Voilà. Tout ça, c'est toujours au cas par cas, en fonction de notre situation, en fonction de chacun de nos enfants, en fonction de ce qui est juste pour nous à l'instant présent. Je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode aura été intéressant pour vous, peut-être inspirant, vous aura amené à vous questionner sur qu'est-ce que c'est pour vous être une bonne mère, quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui fait sens pour vous, de manière générale, au cas par cas, dans chaque situation, au jour le jour. Et à la fois vous affranchir un petit peu de la validation extérieure et ben, reconnaître que ça existe aussi, que c'est normal aussi, et vous créer l'entourage qui va être soutenant pour vous et qui va porter un regard positif sur vos choix parentaux, sur vos choix parentaux, tout simplement. J'ai pas besoin de développer plus, je pense que c'est suffisamment clair comme ça. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce sera soutenant pour vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.